With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui très souvent se voit reprocher un certain dédain, voire une aversion pour ce qui se fait actuellement, à tel point qu'on en arrive parfois à douter nous-mêmes. Est-ce qu'on aime encore vraiment ça? A-t-on perdu notre capacité à nous laisser surprendre, embarquer par un film qui, vu de l'extérieur, nous disait pas grand-chose? Eh bien, la réponse est oui, on va le prouver immédiatement en causant de sang-froid. Une bien bonne surprise pour mes camarades cinéphiles réunis ici, Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné, épisode 178, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Sang-froid nous emmène dans la sympathique et neigeuse station de ski de Keo, dans le Colorado, où a priori rien de bien dramatique ne se produit en dehors des fractures sur les pistes, mais c'est sans compter sur l'odieux trafiquant de drogue viking, alias Tom Bateman, qui, non content de régner sur le deal local, décide de dessouder le fiston d'un aimable et paisible conducteur de chasse-neige, c'est vraiment dur à dire, Nelson Coxman de son nom, en maquillant sa mort en overdose. Manque de bol, Nelson est incarné par Liam Neeson, et il ne faut pas faire chier Liam Neeson, qui va donc entamer un travail de deuil par la violence, en massacrant un à un les membres du cartel de Viking.
Mr. Coxman,
what can I do for you?
It's about your son.
He died of a heroin overdose.
We didn't know our own son.
Kyle wasn't a druggie.
Sorry, but all the parents say that.
Derrière la caméra, c'est le Norvégien Hans-Peter Molland qui se livre donc à un auto-remake, puisque Sang-Froid est une relecture de son propre film Refroidi, sorti en 2014. Et outre Neeson et Bateman au casting, on trouve Laura Dern, Emmy Rossum et Dominique Lombardozzi. Votre avis sur ce Sang-Froid, les amis? Julien Dupuis,
évidemment,
ta présence
sûr.
Veut que tu prennes la parole en premier.
Que je commence, ouais. J'en appelle aux auditeurs. Ne m'oubliez pas, les amis.
Il est question d'une pétition
exactement,
régulièrement. Je n'en ai toujours pas vu la couleur.
Tant que je ne vois pas cette pétition,
je m'acharne.
Fais attention, Thomas Rozek.
La colère gronde au sein des masses.
Ça te retombera, ça t'explosera au visage un jour.
C'est ça.
Écoute, de sang-froid, moi, ça fait partie de. C'est exactement ce que j'aime en fait dans le cinéma de genre. Enfin, je n'aime pas que ça, mais ça fait partie des choses que j'adore. C'est-à-dire que c'est une trame, mais ultra classique. Quand tu la pitches, c'est vrai qu'a priori, on n'a pas trop envie de voir ça. On a l'impression que c'est un Tekken-like.
Ouais.
Et c'est extrêmement basique en fait comme intrigue, etc. Sauf que petit à petit, il y a des touches d'originalité. D'abord une ambiance, un contexte montagneux, isolé, on dirait provincial très fortement en fait si ça se déroulait en France. Pas du tout citadin, à l'opposé de ça, c'est-à-dire avec des gens qui sont plutôt isolés les uns des autres.
Ouais.
Et puis il y a des petites touches qui viennent nourrir des personnages où tu te dis bah tiens, ce personnage-là, tout à coup, c'est le cas par exemple du personnage de Laura Dern au début, tu te dis il existe un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Et il construit comme ça toute une galerie de personnages secondaires. Puis il y a de l'humour qui va commencer à arriver, de l'humour noir. Et au final, le film se termine et tu te retrouves avec un objet qui est assez unique, en fait. À un rythme, à un ton qui est très, très, très particulier et qui est totalement savoureux parce que, en fait, tu bascules tout le temps entre les lieux communs, mais que tu es content en tant qu'amateur de films de genre. C'est un des trucs que tu attends, hein, de voir, bah, là en l'occurrence, Liam Neeson donner des coups et défoncer la gueule de malfrats, c'est toujours plaisant. Et en même temps, avec des élans et une incarnation aussi de certains personnages qui est extrêmement touchante. Et ce que j'aime en plus de tout ça, c'est que du coup, ce faisant, je trouve qu'il incarne extrêmement, Hans-Peter Molland, le réalisateur, il incarne énormément ses personnages. C'est-à-dire que ces personnages qui ne pourraient tenir que de l'archétype, initialement, bah, par ces petites touches, en fait, deviennent tout à coup des personnages qui vibrent, oui. qui existent, dans toute leur absurdité, parfois. C'est extrêmement plaisant, quoi. Voilà, c'est des films de genre comme moi j'en bouffe un paquet quoi et j'en vois extrêmement peu en fait des films de ce type là. Alors le truc c'est que le film a aussi un peu les défauts de ses qualités. Je pense que je préfère le prévenir les spectateurs en fait pour ça. Il faut aller voir sans froid, mais malgré tout je tiens à vous le prévenir, comme ça passera plus facilement je pense. Mais il y a cette galerie de personnages secondaires. Le défaut de ça c'est qu'il s'égare un peu avec ses personnages secondaires, y compris je trouve dans son troisième acte, où il y a notamment toute une partie en fait d'Indiens, enfin tout un groupe d'Indiens et tout. Je trouve qu'on perd un peu, on passe un peu trop de temps avec eux et on perd un peu le cheminement de Liam Neeson qui reste quand même le personnage principal, le personnage, moi, à mon sens, hein, le plus touchant et le plus formidable. Ça, c'est la première chose. Et l'autre truc, c'est que il y a quand même un équilibre extrêmement délicat à trouver entre le drame, le sérieux et puis l'humour, entre le côté truculent en fait des personnages et puis ne pas les perdre, entre une distanciation qui t'empêche en fait de rentrer dans le cœur du sujet et tout. Et cet équilibre, le producteur, je me souviens plus du producteur, mais parce que c'est lui qui est allé chercher le réalisateur, faut quand même préciser qu'Hans-Peter Molland, c'est lui qui avait fait le film original dont s'inspire, et c'est le producteur qui s'est dit en voyant le film original, il s'est dit, mais ça, c'est trop dur, en fait, à trouver comme équilibre. Il est donc allé chercher lui-même Hans-Peter Molland. Et ben malgré tout, je trouve que de temps en temps, l'humour désamorce un peu trop les choses. Et notamment, évidemment, je ne vais pas te spoiler, mais évidemment, il y a un gag, par exemple, qui arrive juste avant le générique de fin. C'est dommage, en fait, pour moi, qui est vraiment trop, qui est totalement déplacé. Il n'empêche que, voilà une bonne surprise, quoi. Et c'est un film qui a le cœur au bon endroit. Et comme j'en vois pas beaucoup, en fait.
Stéphane ?
Bah, ce qui est un peu rassurant avec Liam Neeson en tant qu'acteur, c'est que c'est un grand acteur, hein, et qu'il est un grand acteur dramatique. Et c'est toute l'idée à la base de Taken, c'est-à-dire c'est d'aller chercher un grand acteur dramatique. C'est pas une personnalité physique, on va dire, pour en fait lui donner le rôle justement de action hero, enfin du vigilante et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a plu aux gens à l'époque, indépendamment, je trouve, des qualités très discutables, moi, du film, et ce qui a relancé sa carrière, et notamment aux États-Unis, en fait, puisque ça avait été un succès correct en France à l'époque, mais un an après, ça a vraiment explosé aux États-Unis, à un point que toutes les prods, en fait, qui se lançaient dans ce genre de truc voulaient faire ce que j'appelais du Taken-Sploitation, quoi. Oui. C'est-à-dire vraiment ce genre de film, quoi. Et ce qui est rassurant, c'est que voir quelqu'un comme Liam Neeson qui arrive peut-être à 50 ans ou 55 ans, en fait, dans sa carrière, en prenant en compte tout le background qu'il a derrière, que de temps en temps, il utilise son côté bankable, quoi, son côté, voilà, pour faire ressortir ce type de projet. C'est-à-dire, parmi les Taken 1, 2, 3, les films qu'il a fait avec Romé Colessera, il y a Le Territoire des Loups. C'est pas tout à fait un Taken Protection, évidemment, on le savait, mais en fait, ça a été vendu comme un film d'action, etc. etc. Et c'est un grand film funèbre, en fait. C'est un grand drame funèbre. Beaucoup plus même qu'un film d'aventure à proprement parler, même si c'en a les atours. Il y avait un autre film, en fait, Balade entre les tombes, en fait, qui est un superbe film noir. Et là, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, effectivement, dans ce film-là, alors moi, j'ai pas vu du tout le film original.
Refroidi, oui.
Voilà, donc je sais pas du tout à quel point. Je pense que les deux films se ressemblent beaucoup, j'imagine, indépendamment du décor. De l'américanisation du film, on va dire. Mais c'est vrai que ce qui existe vraiment dans la logique du film noir, c'est ça, c'est-à-dire jouer avec une ironie très très spécifique sur la mort, sur la façon dont tu vas la mettre en scène, sur la façon dont tu vas jouer avec ça. Donc tu as à la fois, en fait, des relents de violence très très dur, c'est-à-dire même bien plus dur que dans n'importe quel Taken ou n'importe quel film qu'il a fait en dehors de ça, quoi, Liam Neeson, très très cru, et en même temps un jeu d'ironie qui effectivement donne énormément de si c'est vraiment bien utilisé, c'est généralement bien utilisé dans le film, pas tout le temps, mais vraiment en général ça fonctionne bien. Ça donne en fait un cœur en fait au personnage qui les fait ressortir. Il y a Je vais pas comparer les deux films parce que c'est pas du tout la même chose à la fin, mais en fait, ce que j'ai apprécié en fait en voyant le film, même si c'est le ton est complètement différent, c'est que ça m'a fait un peu penser à l'écriture des veuves aussi, dans la façon dont on fait ressortir des personnages qui ont très très peu de temps de présence à l'écran finalement, et de leur donner une incarnation très directe. Ça m'avait énormément touché dans Les Veuves. Là, c'est fait complètement différemment dans celui-là, mais ça fonctionne aussi bien avec des persos qui, où tu te poses pas la question, t'es juste touché par la façon dont ils existent. Même presque plus écrit, ça serait presque trop, en fait. Il y a, par exemple, il y a un homme de main, tu te rends compte qu'il est homosexuel, tu vois. Et en fait, t'as tout un petit truc autour de ça,
Dominique,
tu vois.
Dominique Lombardo aussi, en fait, dont tu parlais tout à l'heure.
Voilà.
Grand acteur de Oz et puis de Sur l'écoute.
Ouais, et c'est un tout petit truc, hein. Et en fait, il existe et tu te rappelles de lui à cause de ça. Il te rappelle, je vais pas te dire où ça va, en fait, mais voilà. Et tu te rappelles de lui à cause de ça. Il y a aussi une ironie dans la narration qui est que chaque personnage, en fait, qui se fait refroidir, et je te rends compte qu'il y en a un paquet. En fait, ils sont on leur donne le film leur offre une oraison funèbre, on va dire, en fait, juste avec un carton et un signe de croix, ou par exemple une étoile de David quand c'est un juif, ce genre de choses, en fait, pour t'expliquer qu'ils sont sortis du récit. Ce qui permet, en fait, au film, la première fois, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça fout là? Bon, est-ce qu'il va le faire à chaque fois? Mais en fait, mine de rien, c'est un espèce de truc qui est assez intéressant, parce que c'est une idée intéressante, parce que mine de rien, ça lui permet de pas forcément te montrer les mecs se faire dessouder, mais en fait de te le faire comprendre en jouant un petit peu sur ton attente et ton empathie, en fait, voilà. Et ça, c'est assez
ça les permet d'exister, en fait. Ils disparaissent pas du récit, voilà. Ils sortent de l'intrigue,
et ça, c'est un truc, c'est encore une fois, c'est un truc de film noir. La dernière fois que j'ai dû voir ça dans un film, je vais remonter loin, il y en a peut-être d'autres, hein, qui l'ont fait, mais je me rappelle que ça m'avait énormément frappé. C'était dans L'Arme Fatale 2. En fait, t'as une scène à la fin, t'as la scène d'action finale où Mel Gibson, parce que t'as tous les flics qui se sont fait dessouder jusqu'ici dans le récit, et t'as Mel Gibson, en fait, ils sont sans là, mais qui vide littéralement son chargeur sur un quidam complètement, voilà, et qui cite tous les noms, en fait, de ses coéquipiers qui se sont fait tuer pendant le truc. Et même si on sait que c'est un film qui a été réécrit à l'époque par d'autres scénaristes que Shane Black, j'ai envie de croire, en fait, que cette idée spécifique, ça vient de Shane Black, quoi. Ouais. Parce que, en fait, je pense que c'est une idée de pulp, c'est une idée de film noir où.
On donne sa culture à lui.
Voilà, et on donne, en fait, une place au laisser pour compte. On donne une place, en fait, à tous ces personnages-là qui dans n'importe quel autre film d'action, serait juste de la chair à canon, qui serait déblayé, quoi. Y a un autre élément, peut-être périphérique, mais assez intéressant, et c'est dans la façon dont le ton. Moi, je dis vraiment ironique plus qu'humour, on va dire, à proprement parler. C'est pas à gorge déployée. C'est l'utilisation de la musique, en fait, et c'est George Fenton qui fait la musique. C'est pas mon compositeur de musique préféré, qui a fait d'autres choses que de la comédie, mais qui est surtout connu pour la comédie. En fait, il est connu, il a fait Un jour sans fin, il a fait plein de comédies romantiques, etc. Et je pense qu'il a été utilisé, il a fait des films épiques et des trucs comme ça. Il a fait aussi des Ken Loach, hein, donc il est vraiment, il est partout.
Multicarte.
Voilà, mais j'ai l'impression qu'il est utilisé pour son aspect, musicalement, son aspect comédie. Et ça, c'est pareil, c'est une prise, mine de rien, de risque, assez intéressante, parce que le film pourrait complètement tomber à plat à cause de ce type de musique. C'est pas la musique ultra guirette de Un jour sans fin, mais ça reste quand même assez...
C'est un des premiers éléments qui te dit que ça va détonner, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Et du coup, ça fonctionne assez bien. Après, je pense que le gag final, effectivement, qu'on va pas spoiler, le souci de ce gag-là, moi j'ai l'impression que c'est surtout qu'à un moment donné, en fait, il a été décidé que si t'avais vraiment pas compris que t'étais en train de regarder quelque chose qui avait une logique ironique, en fait, on te l'explique et on te laisse sortir avec ça. Moi aussi, j'ai un problème avec ça. Oui. J'aurais aimé que ça soit plus subtil. Mais après, t'as aussi, tellement de choses à côté que tu peux pas vraiment vouloir au film là-dessus. Il y a, par exemple, moi, ça faisait des années que j'avais pas eu William Forsythe, qui est pareil, il apparaît 5 minutes, hein, qui joue le frangin de Liam Neeson et qui est incroyable, quoi. Alors déjà, il a grossi, on dirait Obélix, mais en plus, il est vraiment hyper attachant et sa relation avec sa femme est hyper attachante. Et voilà, et il est, il a vraiment un tout petit arc, quoi, mais qui fonctionne très très bien, quoi.
Mais il y a un coup pour les personnages secondaires, et même pour les acteurs de second rôle. Ce serait intéressant. Malheureusement, il n'a pas fait la promo en France, Hans-Peter Mellon. Moi, j'aurais adoré lui poser la question, parce que je pense qu'il y a un goût de sa part pour être allé chercher tous ces comédiens, tous ces seconds couteaux. Et il y a une réflexion sur comment tel acteur peut aussi incarner très rapidement le personnage. C'est moins efficace, il y a moins de brio dans la façon d'incarner tous les petits personnages, comme le disait Stéphane, par rapport aux veuves, je trouve. c'est un tout petit peu plus laborieux dans 200 francs, un tout petit peu plus appuyé, on va dire, plutôt. Mais par contre, ce choix de casting et cette multitude de gueules, en fait, c'est très... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, hein, très clairement, ça l'aide là-dedans, il y a un vrai plaisir là-dedans. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir tous ces seconds rôles, en fait, que j'avais pas vus à William Sorcey. C'est l'exemple le plus évident, quoi, mais ça fait partie des vrais plaisirs aussi de cinéphile, en fait, par rapport à ce film. Et le truc aussi que je voulais dire, c'est qu'on a vu beaucoup de films noirs qui essayent d'incarner leur personnage en étant extrêmement solennel, toujours extrêmement sérieux, etc. Pour moi, Sang Froid, c'est encore une fois la preuve que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et que dans la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que tu trouvais l'humanité, en fait, de ces personnages ne vient pas forcément d'une attitude extrêmement, je tire la gueule tout le temps, et tout est moche et tout machin. Dans toutes les situations les plus dramatiques qui soient, de toute façon, je pense que l'ironie de la vie te rattrape. Et mine de rien, Sang Froid, à son petit niveau, parce que c'est aussi un film que je trouve relativement humble, même s'il y a un petit discours sur les Indiens dedans, par exemple.
J'imagine que ça, c'est l'américanisation du sujet. Quoi.
Mais aussi sur la relation, le poste de Liam Neeson, qui est censé relier la civilisation à la sauvagerie. Enfin, bon, il y a des petits sous-textes comme ça, tu sens qu'il a un peu cogité. Ça reste quand même un film assez humble, et je sais plus, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais je comprends.
Moi, le petit bémol, en fait, que je mettrais, c'est que je pense que soit ça l'intéresse pas, soit il a pas vraiment les capacités, ou je sais pas, hein, je vais pas présumer, mais en fait, dès qu'il y a une vraie scène d'action à proprement parler, il y en a une à la fin, là, c'est le bordel, en fait, vraiment tout de suite, et pas uniquement parce que sur le papier, t'as deux groupes qui se rejoignent, qui se tirent dessus, quoi, mais aussi parce que tu te rends compte que finalement, sa mise en scène assez sèche, assez limpide, en fait, elle colle pas avec la façon d'intégrer, et c'est là, effectivement, où moi, je pense que je rejoins, je pensais à ce que Julien disait tout à l'heure sur la place de Liam Neeson, et notamment dans cette scène. Je pense qu'il est là le vrai problème, en fait, à un moment donné. C'est que si ça avait été vraiment mis en scène, cette scène-là était vraiment mise en scène, je pense qu'on n'aurait pas eu l'impression de perdre totalement Liam Neeson vis-à-vis des autres personnages. Parce qu'en fait, on se demande ce qu'il vient foutre là, finalement, à la fin. C'est-à-dire que ce que lui, il a fait et ce que ça génère derrière, c'est ce qui est mal géré, je trouve, narrativement par le film. Et vraiment en termes de mise en scène pure et dure, quoi. Mais encore une fois, c'est pas très, très grave. C'est-à-dire que c'est dommage, hein. On aurait aimé que ça soit une flèche, le film, à ce point-là, quoi. De ce point de vue-là, mais le truc, c'est que non, ça fonctionne parce que 10 minutes avant, t'as Liam Neeson qui jouait avec un gamin de 10 ans et qui avec sa pelleteuse, quoi. Donc en fait, t'as tout un tas de trucs comme ça que tu t'attends pas à voir dans un film, mais en même temps, si tu connais un peu ce genre de pulp, si tu connais un peu ce genre de film noir, si ça existe, ça y est, et c'est quelque chose qu'Hollywood a vraiment délaissé au fur et à mesure pour aller dans des trucs à la Taken, justement. C'est-à-dire que Tout le truc qui a été mis en place au début, on te dit, quand on te raconte ce genre de récit, on s'attend à un Taken. Il y a 30-40 ans, non, on ne s'attendait pas forcément à un Taken, justement. On s'attendait, enfin, dans les années 60-70, on s'attendait à des vrais récits noirs avec les archétypes, avec tout ça. Et c'est effectivement été dévitalisé pour passer à la moulinette du gros bourrinage d'action, et en perdant la logique de personnage derrière, quoi.
Avant de se quitter, chers amis, on va faire un petit tour de recommandations quand même, dans l'univers de votre choix. Comme toujours, c'est votre moment, comme on dit. Julien ?
Je voulais conseiller Hans-Peter Mollen. Juste avant, il avait fait un film qui participe d'une série. En fait, c'est une série de films. Alors, c'est pas vraiment une série télévisée, mais il y a un côté vraiment feuilletonesque. Et ça fait vraiment partie de la vague de ce qu'on appelait le Scandinoir, qui est un genre encore très différente, sans froid, mais il y a des ponts quand même, notamment dans l'utilisation de cet humour noir à froid et de cette espèce d'ironie. Et son opus m'avait plutôt convaincu. Bon, c'est pas des grands films, il s'agit des enquêtes du département 5.
Oui.
C'est pas des très grands films, c'est pas des films qui sortent d'ailleurs en salle en France. Ça sort directement en VOD chez Wildside. Il y a lui s'est occupé du troisième, il y a le quatrième qui sort à fin mars, qui devrait être le dernier. J'espère que j'en oublie pas en route, non, mais je ne pense pas. Et donc lui s'était occupé de l'avant-dernier. Le principe, c'est ce sont deux flics qui s'opposent, en fait, c'est un peu un buddy movie, et qui se retrouvent à gérer des cold cases. Alors je suis désolé, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais
des affaires non classées.
Non classées, voilà, mais des vieilles affaires non classées qui ressurgissent d'une façon ou d'une autre. Alors forcément, le procédé au fil des films un peu plus poussif, etc. Mais ça reste plaisant. Enfin, c'est quand même à réserver vraiment aux fans de Scandinoir. très spécifiquement, ouais. je trouve. Mais c'est très bien fait, très plaisant. Et les deux acteurs principaux, Farah Fareed et Nicolas Liekas, je me souviens jamais de son prénom, que j'ai interviewé deux fois ce brave garçon, mais fonctionnent vraiment très très bien ensemble. Ouais. C'est le cœur qui bat. Voilà. Et Hans-Peter Molland avait fait du bon travail. C'était Délivrance, son opus. C'était une très belle fin.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
Ouais, je sais.
C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai vu dans des commentaires que certains auditeurs en ont marre. Ils peuvent plus te soutenir. Ils disent ça suffit, Moïsakis, cesse tes bêtises, arrête de recommander, arrête avec Anaconda, on a compris, c'est bon. Moi, je suis pas sûr qu'ils aient compris parce que bon, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas tous vu.
Oui.
Mais voilà, donc c'est un peu un problème. Mais j'ai envie de leur dire à ces auditeurs que tel Macron s'adressant aux Gilets jaunes, je les ai entendus. Et donc, je vais recommander Anaconda. Voilà. Et jusqu'à la prochaine fois où vous me direz si vous l'avez vu ou pas. Voilà.
C'est magnifique ce trolling permanent. Bravo Stéphane, notre temps est écoulé.
Je vous en prie.
Notre temps est écoulé, merci à tous les deux. Merci à Solène, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.